écoutez la French Radio. Vous écoutez la French Radio.
Bonjour, bonjour à tous. Il est 11h, 11h05 minutes. Nous sommes en direct sur la French Radio. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour à tous, bonjour Thierry, bonjour Laurence.
Bon, bah, j'espère que vous avez...
dès qu'il se passe un truc en France, il y a tout de suite des gens qui font des arnaques à ce truc.
C'est impressionnant quand même. C'était ce qu'on était en train de se dire.
C'est pas possible.
Et c'est fou. Donc, on le rappelle quand même aux gens. Faites attention, si vous recevez ce type de SMS, eh bien, c'est une arnaque. Ne vous laissez pas piéger. Voilà, je crois que c'est important de le dire. C'est quand même malheureux que dans ces circonstances actuelles, eh bien, que les gens, puissent encore penser à escroquer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est la société de nos jours. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle, n'est-ce pas, Jean-Guillaume ?
Une invitée de marque.
Une invitée
enfin, c'est une invitée de Thierry, mais de marque.
Voilà, nous recevons aujourd'hui Madame l'ambassadrice de France au Portugal, que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui en direct sur l'antenne de la French Radio. Bonjour, Madame l'ambassadrice.
Bonjour Thierry.
Bonjour, ben nous sommes ravis de vous avoir et en premier lieu, moi je tenais, Madame l'ambassadrice, à vous féliciter ainsi que féliciter vos services, si vous me le permettez, pour avoir constamment, et ce depuis, bah, on va dire maintenant des mois, plusieurs semaines, eh bien, mis à jour les informations d'une manière permanente sur le site de l'ambassade. Et je crois que vous avez été non seulement, vous avez montrer votre réactivité, mais vraiment, vous nous avez rendu vraiment un fier service. Voilà, je tenais à le dire, je pense que vraiment, eh bien, vous avez été sur le pont matin, midi et soir.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la French Radio. Merci infiniment pour cette invitation à participer à cette émission en direct. Et merci pour l'évaluation que vous venez de faire. Effectivement, ça fait exactement 2 mois, hein, puisque les choses ont commencé à démarrer vers le 10 mars, que l'ensemble de l'ambassade, et j'ai eu plusieurs occasions pour les féliciter et les remercier, s'est mobilisé de manière vraiment constante pour venir en aide aux Français de passage qui souhaitaient revenir en France alors que tous les vols disparaissaient de tous les écrans et de tous les radars. Et donc, effectivement, je crois que dans un moment d'inquiétude, de questions, d'interrogations, il est très important de bien communiquer. Et le site de l'ambassade, nous y attelons quotidiennement et plusieurs fois par jour, est un lieu d'information. Et donc, nous avons eu à cœur, et nous avons toujours à cœur, d'y mettre les informations pertinentes et les documents, et nous y reviendrons dans l'entretien, les documents qui sont nécessaires pour pouvoir circuler dans l'espace européen et entre la France et le Portugal.
Oui, surtout que les choses évoluent de jour en jour, eh bien les informations ou la réalité vient prendre un petit peu le dessus et ce qui était prévu ne l'est plus. On va parler tout particulièrement de l'Espagne où beaucoup de gens ont rencontré de nombreux problèmes. On va l'évoquer bien entendu tout à l'heure. Alors depuis plus d'une semaine, quand on a annoncé évidemment votre présence sur l'antenne de la French Radio, nous avons reçu de très très nombreuses questions de la part de nos auditeurs, beaucoup de messages qui nous ont été adressés, des messages aussi personnels qu'on pourra aussi vous transmettre tout à l'heure hors antenne, parce que certains nombres de personnes ont des problèmes et ils nous ont demandé de pouvoir intercéder, mais ça on fera ça hors antenne tout à l'heure. Et nous avons essayé par contre de résumer la plupart des questions pour pouvoir vous les poser directement et que vous puissiez bien entendu, Madame l'ambassadrice, nous apporter des réponses. Je pense que Jean-Guillaume, vous avez peut-être une première question à poser à Madame l'ambassadrice.
Une première question qui est un petit peu naïve, mais en même temps je pense que les gens... Elle vient du public.
Elle vient du cœur.
Non, mais c'est la première question, c'est comment devient-on ambassadrice et avez-vous été formée dans la formation qui fait que vous êtes devenue ambassadrice à gérer ce genre de crise?
Alors, la formation aux crises que l'on ne connaît pas est toujours un peu difficile.
Ouais.
Donc, il y a un certain nombre de gestes réflexes pour la gestion des crises de manière générale, mais il est évident que cette pandémie due au Covid-19, personne ne l'attendait, personne ne l'avait prévu, et donc nous avons tous, dans toutes les situations que ce soit, y compris les ambassadeurs, été pris de court, et donc nous avons dû réagir dans l'urgence. s'organiser dans l'urgence, apprendre de nouvelles manières de travailler dans l'urgence. Et je crois que l'important, c'est effectivement d'essayer d'avoir un cap un peu clair. Comme je l'ai dit, pour ce qui a été l'action de l'ambassade, la première urgence a été d'accompagner, d'informer, d'aider les Français de passage qui voulaient rentrer en France. Et puis, on s'est organisé différemment pour assumer les activités de service public qui sont les nôtres. Il est évident qu'il y a tout un pan de l'activité diplomatique qui a disparu depuis 2 mois. L'activité de contact, l'activité de réception, l'activité d'échange physique avec les interlocuteurs portugais et internationaux. C'est une part essentielle du métier diplomatique. Et donc, il y a effectivement un changement. Et d'ailleurs, qu'il va falloir appréhender dans la durée, parce que tant que nous n'aurons pas de vaccin, tant que nous n'aurons pas de traitement, il est évident que le retour à une vie que nous connaissions avant la pandémie est assez illusoire, et donc il faut sans doute inventer des nouvelles façons d'être et de travailler.
Alors justement, par rapport à ça, moi j'avais une question qui était comment c'est prise justement, parce que vous avez dû agir dans l'urgence, c'est prise donc la décision de fermer le lycée français de Lisbonne avant même que les autorités portugaises ou françaises n'appliquent cette règle. C'était quand même pas évident de prendre cette décision.
Alors effectivement, ça a été une des premières décisions au tout début de l'épidémie. Il y avait une élève qui revenait d'Italie et qui s'est avérée positive. Et donc, étant positive, elle n'est pas retournée à l'école, mais elle a eu des contacts en dehors de l'école avec plusieurs de ses amis. Et donc, elle était porteuse d'un risque pour la communauté éducative. Et donc, effectivement, vous avez raison, le 10 mars exactement, après en avoir parlé avec, évidemment, l'approviseur, après avoir consulté également les autorités sanitaires portugaises, j'ai pris la décision de fermer l'école quelques jours avant que le système portugais décide de fermer l'ensemble des lycées, sachant qu'à l'époque, des universités et quelques établissements d'enseignement avaient décidé également, de manière unilatérale, mais en concertation avec la DGS, de fermer également les établissements. Donc là, il y avait un risque, vraiment un risque de contamination pour l'ensemble de la collectivité, et le principe de précaution m'a fait agir dans ce sens, et je remarque que quelques jours après, l'ensemble du système portugais a décidé de suspendre les cours en présentiel et de prendre des cours en distanciel.
Tout à fait. Alors Jean-Guillaume, je pense que vous avez une question.
Oui, alors c'est un peu plus terre à terre, c'est-à-dire c'est, la section consulaire va rouvrir progressivement. Le fonctionnement va-t-il être normal? Tous les services vont être assurés? Et point d'interrogation. Et si oui, y a-t-il des mesures barrières, les mesures sanitaires qui sont prises?
Alors effectivement, nous avons décidé de permettre à la section consulaire de l'ambassade de reprendre son activité en présentiel à compter d'aujourd'hui, le 13 mai, et ce en concertation très étroite avec le ministère des Affaires étrangères qui nous a donné un certain nombre de lignes directrices. Donc l'idée, c'est de maintenir la continuité du service public en protégeant et les agents et les usagers qui vont venir à la section consulaire. Et pour cela, vous avez raison, un énorme travail de réaménagement des locaux a été fait. Le port obligatoire du masque, un marquage au sol à l'extérieur de la section consulaire pour respecter la distanciation physique, l'installation de protection en plexiglas également sur les stations de travail et la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Donc cette reprise va être, comme vous l'avez souligné, progressive, et nous commençons par un certain nombre de formalités administratives que sont le retrait des passeports et des cartes d'identité, les questions qui relèvent des affaires sociales, qui sont toujours très importantes, et toute question d'urgence avérée. Une disposition importante, tous les rendez-vous doivent être pris en amont. On ne recevra pas les gens au fur et à mesure. Il faut prendre un rendez-vous au préalable, avec le mail et le formulaire contact qui est sur le site de l'ambassade et que tout le monde connaît. Et donc, à partir, c'est dans un système de rendez-vous. Et on verra au fur et à mesure de la situation sanitaire dans le pays pour rouvrir d'autres services un peu plus tard. Donc, une approche graduelle, progressive, exactement comme le fait d'ailleurs le gouvernement portugais pour la réouverture d'un certain nombre de lieux.
Et avez-vous des nouvelles des élections consulaires qui devaient se tenir au mois de mai, côté évidemment?
Alors, les élections consulaires ont été, vous le savez, reportées. C'est l'objet d'une consultation que mène le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoine, avec les assemblées et les élus. Pour l'instant, nous n'avons pas de date et donc c'est une chose qui est encore devant nous.
Ok, donc c'est à journée sine die.
Oui, bah, en tout cas déjà en France on voit déjà qu'il y a déjà une évolution parce que les élections municipales qui s'étaient tenues donc au mois de mars, les maires, ceux qui ont été élus dès le premier tour ont été validés et donc maintenant on va installer les conseils municipaux dans les différentes communes pour ceux qui sont passés au premier tour et on parle peut-être de tenir des élections pour le second tour au mois de juin. Madame l'ambassadrice, peut-être avez-vous d'autres informations à ce niveau-là?
Non, je n'ai pas d'autres informations que celles que vous venez de donner.
Voilà. Alors, moi, j'avais une autre question, Madame l'ambassadrice, c'est le gouvernement et l'administration consulaire se sont mobilisés avec un plan. D'ailleurs, comme l'a indiqué le ministre Gérald Darmanin lors de son interview exclusive au site lesfrançais.press et sur la French Radio, qui porte l'enveloppe dédiée aux Français de l'étranger à 240 millions d'euros pour cette année. Alors, deux points concernent directement les Français au Portugal, à savoir, d'un côté, les bourses scolaires, parce que les parents ont actuellement jusqu'à la fin de ce mois pour déposer leur dossier. Est-ce que vous attendez une forte augmentation des bénéficiaires? Et surtout, quelles seront les modalités d'attribution par rapport à cela?
Alors effectivement, la crise économique liée à la pandémie a fragilisé de nombreuses familles et a aggravé la situation de celles qui avaient déjà des difficultés à s'acquitter des droits de scolarité. C'est pour cette raison que, et c'est pas spécifique au Portugal, hein, c'est dans l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, et donc c'est pour cette raison que le gouvernement français a décidé ce plan exceptionnel, qui a effectivement deux modalités pour ce qui nous concerne. Un aménagement du calendrier, donc un report de la date limite pour déposer les demandes de bourses scolaires, pour laisser plus de temps aux gens d'instruire leur dossier, et puis la mise en place de dispositifs exceptionnels d'accompagnement des familles pour prendre en compte ces pertes de revenus directement imputables à la crise du Covid-19. Nous, comme vous le savez sans doute, nous avons de manière assez stable depuis plusieurs années 300 personnes qui bénéficient de bourses scolaires entre les deux établissements. Et effectivement, les services consulaires reçoivent jusqu'au 25 de ce mois les dossiers des familles. Il y aura un conseil consulaire à la fin du mois et c'est lui qui, sur la base des critères habituels plus les critères Covid, si j'ose dire, c'est-à-dire la perte de revenus justifiée par la pandémie sanitaire, eh bien, ces dossiers seront examinés et ensuite, c'est à l'AEFE et au ministère des Affaires étrangères qu'il reviendra de prendre une décision définitive. Donc oui, on s'attend à ce que, encore une fois, on n'a pas une vision globale puisque les dossiers sont encore en cours de dépôt, mais on s'attend à un nombre plus important de dossiers déposés et notamment par des familles qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas bénéficié de bourses scolaires et qui en ont besoin à cause de la situation.
C'est-à-dire donc on peut dire que les modalités d'attribution vont donc être revues.
Oui, puisque de toute façon, il y a de facto un critère de plus qui est la perte de revenus due à la pandémie. Enfin, aux effets économiques de la pandémie plutôt.
Bien sûr. Allez-y, Jean-Guillaume.
Dans la continuité de cette question, on est d'accord que les lycées français de Porto et de Lisbonne ne rouvriront pas avant la rentrée.
Oui.
Alors, pardon.
Oui. Ah bah,
non, la situation est plus et doit être regardée de manière plus fine.
Voilà, parce que si je peux juste, Madame l'ambassadrice, excusez-moi, si je peux juste compléter peut-être, c'est que on demande à l'heure actuelle aux parents de continuer en fait à payer la scolarité tous les mois alors que les cours n'ont plus lieu. Et c'est vrai que en tout cas certains parents font remonter l'information que les qu'il n'y a pas de cours qui sont donnés à leurs enfants par visioconférence, alors que dans les
alors
écoles
que
portugaises
les droits d'inscription et puis les droits de scolarité sont toujours dus.
Et exactement, voilà. Alors que dans les écoles portugaises, bien les élèves ont des cours qui sont donnés en visioconférence, mais aussi à la télévision. Donc justement, quelle réponse on peut apporter aux parents d'élèves?
Merci pour avoir complété cette question. Alors nous, on se cale sur le dispositif portugais. Comme vous le savez, il a été décidé par le gouvernement portugais de maintenir la continuité pédagogique, le téléenseignement du secteur du secondaire jusqu'à septembre. En revanche, les premières et les terminales, à partir du 18 mai, donc de la semaine prochaine, reprennent le chemin de l'école, enfin du lycée, notamment dans les matières où des examens doivent être passés pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, les maternelles, à partir du 2 juin, là aussi reprennent le chemin de l'école pour les maternelles. Donc ça, c'est le dispositif portugais, qui est le dispositif sur lequel nous nous calons comme étant des établissements au Portugal. La situation est différente à Porto et à Lisbonne, je vais y revenir. Mais pour reprendre votre question, Thierry, je crois qu'il est erroné de dire qu'il n'y a pas de cours en ce moment dans les deux lycées. Au contraire, les professeurs se sont, dès le début de la crise, dès la fermeture et ou la suspension des cours, se sont organisés pour faire du téléenseignement, faire des visios. De manière générale, l'engagement des professeurs est vraiment à saluer. Il y a énormément de cours qui sont donnés dans toutes les matières, dans les deux lycées, et donc cette continuité pédagogique a un coût. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cours. Alors après, il peut y avoir des parents qui sont satisfaits plus ou moins. Ça c'est une approche qualitative. Mais en tout cas,
le sentiment des parents d'élèves, pardon de vous couper, c'est que la qualité du téléenseignement dépend, on va dire, des compétences informatiques du professeur plus que d'un système. C'est ça le ressenti des familles.
Tout à fait. Non, vous avez raison. Par définition, un professeur n'a pas été formé pour reprendre la question que vous me posiez en démarrant cet entretien. N'a pas été formé pour faire du téléenseignement, et donc il a fallu apprendre là aussi dans l'urgence. Et il est bien possible que certains s'y sont mieux mis, ayant une prédisposition, un intérêt, enfin tout ce que vous voulez, que d'autres. Donc là, il peut y avoir une disparité de situation de fait, mais en tout cas. Les deux proviseurs et la gouvernance des deux lycées ont tout organisé en lien avec la EFE d'ailleurs, hein, pour qu'il y ait une continuité pédagogique et qu'il y ait un téléenseignement. Alors, pour la reprise, la situation doit être appréciée un peu différemment selon les lieux. Dans les deux cas, une concertation avec tous les partenaires a été mise en place. À Porto, elle est terminée. Donc, il y a eu vraiment un grand nombre de réunions avec les parents, avec les enseignants, avec la communauté administrative. Et à cause de la situation de la pandémie à Porto, donc vous savez très bien dans la région Nord qu'elle est beaucoup plus prégnante que dans le reste du pays. Sur la base de ce que j'ai entendu de toutes ces réunions qui se sont tenues ces 15 derniers jours, j'ai pris la décision de ne pas reprendre les cours de terminale et de première. Donc la continuité pédagogique continuera. Et d'ailleurs, les parents à Porto sont globalement très satisfaits de cette continuité pédagogique. En revanche, la maternelle, au 1er juin, au 2 juin, reprendra comme prévu. Pour Lisbonne, le processus de concertation est en cours à l'heure où nous parlons. Il y a eu le comité d'établissement hier et il y avait eu déjà plusieurs réunions avec les parents d'élèves ces jours derniers. Et donc, j'attends le retour de ces concertation, de bien comprendre la position des parents et de la communauté académique et éducative, et sur cette base, je prendrai une décision sur le retour ou pas des élèves au lycée de Lisbonne.
Ok.
Et alors pour finir, pardon, excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question sur les frais de scolarité. Donc encore une fois, comme le téléenseignement a un coût. Jusqu'à maintenant, effectivement, vous avez raison, les droits de scolarité sont dus. Il y a, alors le sujet excède le pays du Portugal. C'est un sujet global à l'ensemble du système d'enseignement français à l'étranger. Et il y a en ce moment des discussions du gouvernement français et de l'AEFE. Il y a tout un travail interministériel qui est en cours pour voir si et dans quelles conditions, dans les semaines ou les mois qui viennent, il y aura une réduction ou une remise sur ces coûts. Pour l'instant, c'est une décision qui revient au ministère des Affaires étrangères, en lien évidemment avec Bercy, qui revient à l'AEFE, et nous attendons donc des possible, je n'en sais rien, assouplissement, parce que le sujet que vous avez bien exprimé remonte de l'ensemble du réseau diplomatique. Donc, c'est une décision qui incombe au ministère.
Bon, après, on imagine bien que l'essentiel des coûts, quand on enlève les salaires des enseignants et des administratifs, c'est quand même les bâtiments au Portugal, par exemple. Et les bâtiments, que les élèves soient là ou pas, le loyer reste le même.
Oui, par définition, il y a des coûts fixes.
Voilà, c'est ça.
Pour l'instant, l'effort que Thierry a bien mentionné sur les bourses est une réponse aux familles qui ont des difficultés. Et comme vous le savez bien, il y a des familles qui en ont, il y a des familles qui n'en ont pas. Et donc, pour l'instant, la réponse du ministère des Affaires étrangères, elle est plutôt sur l'aide aux familles qui ont des difficultés financières. Mais nous verrons, pour la question des droits de scolarité, c'est encore devant nous, et c'est un sujet qui est sur la table vraiment de nos autorités.
Jean-Guillaume, justement, vous avez une question sur les aides.
Oui, justement, en matière d'aide aux familles, à part les bourses scolaires, il y a une aide directe. Je vais prendre un exemple idiot, mais... je me suis fait licencier, mon épouse aussi. Est-ce que là, demain, je peux aller demander un petit coup de main pour payer les frais de scolarité, pour je ne sais quoi, pour vivre tout simplement?
Non, pour l'instant, le seul moyen opérationnel pour aider les familles, ce sont les bourses.
D'accord. Et sinon, il y a peut-être des aides un peu moins directes. Y a-t-il des associations qui sont aidées et qui elles-mêmes vont répercuter cette aide sur les familles?
Alors ça, c'est effectivement un autre registre, c'est l'intervention des associations françaises au Portugal et qui peuvent, dans une logique qui est différente de ce que nous venons d'examiner, qui peuvent, mais sur des projets précis et non pas sur des aides à des individus, qui peuvent demander effectivement un soutien de l'État. Mais c'est plutôt sur des projets collectifs plutôt que sur des aides individuelles.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'association dit, je dis n'importe quoi, on va aider les gens qui sont victimes de la crise du tourisme. Et partant de là, l'État peut aider cette association qui, elle, va faire le tri. Enfin, comme les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur demandent de l'argent et après saupoudrent cet argent.
Oui, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment à la demande que vous mentionnez. Hein.
D'accord.
Alors, moi, je vais vous
À l'étranger, ça, c'est pas le cas. Okay.
Alors, moi, je vais vous interrompre quelques minutes parce qu'on va passer les informations du Portugal en français de Vincent Barrault, si vous le permettez. Et on va ensuite aborder un sujet qui est attendu par de très nombreux auditeurs. C'est la possibilité de venir en vacances au Portugal ou de pouvoir rentrer en France. C'est un sujet qu'on va aborder dans quelques minutes avec vous, Madame l'ambassadrice, si vous le voulez bien.
Vous 19 à Faro. Une excellente journée à tous.
Voilà, merci beaucoup Vincent Barros. On se retrouve en direct. Il est 11h34 sur la French Radio. Nous sommes toujours avec Madame l'ambassadrice de France au Portugal. Et donc, comme j'ai pu l'annoncer juste un petit peu, enfin, il y a quelques minutes, il y a un sujet qui est un sujet majeur, parce que de très nombreuses personnes nous envoient des messages, des SMS, et nous disent, est-ce qu'on va pouvoir venir au Portugal cet été? Est-ce que nous allons pouvoir retourner en France aussi? Voilà, sachant qu'on vient d'apprendre que le gouvernement espagnol a décidé d'imposer une quarantaine, d'ailleurs on vient de l'entendre dans le journal de Vincent Barros, à toute personne qui entrerait sur son territoire. Alors, si on reste en Espagne, on peut le comprendre, mais si on ne veut traverser que le pays pour passer de France au Portugal ou vice-versa, est-ce que cette décision s'applique de la même manière et rendrait, on va dire, presque impossible tout passage routier? Madame l'ambassadrice, si vous pouvez nous apporter une réponse par rapport à ça.
Alors, merci beaucoup. Oui, c'est un sujet vraiment très, très important et encore plus important au fur et à mesure que s'approche la période estivale. Alors, peut-être peut-on, selon ce que vous disiez tout à l'heure, regarder d'abord le retour des Français en France, sujet dont on s'est beaucoup occupé pendant la crise au tout début du, enfin, pendant tout le mois de mars.
J'en suis convaincu. Alors,
Comme vous le savez, hein, du côté français, les frontières intérieures restent fermées jusqu'au 15 juin. Et la dernière circulaire du Premier ministre qui a été prise cette semaine confirme cela de manière très claire. Ne sont autorisés de rentrer en France que des personnes qui obéissent à plusieurs catégories, qui figurent dans l'attestation de déplacement international dérogatoire, qui est en place depuis le 18 mars. Et donc, celles qui peuvent rentrer en France doivent le peuvent pour un motif essentiel ou impérieux. Et dans cette attestation, il y a 9 catégories. Celles qui souhaitent rejoindre leur résidence principale en France avec leurs conjoints et leurs enfants, ou les personnes dont le déplacement est justifié par l'exercice du droit de garde, de visite ou d'hébergement d'un enfant, ou bien la poursuite d'une scolarité, ou bien la visite à un parent dans un EHPAD ou un enfant dans une institution spécialisée. Ce qui veut dire que la libre circulation aujourd'hui n'existe pas, mais on peut, si on obéit à ces 9 catégories, rentrer en France. Une chose importante pour nos auditeurs, il faut absolument que les Français qui retournent en France, soient détenteurs de cette attestation de déplacement international qui est obligatoire, hein, pour toute personne susceptible d'être admise en France, avec les justificatifs nécessaires. Et depuis le 11 mai, il est également nécessaire d'être muni de la nouvelle attestation relative au déplacement des 100 km. Qui a été émise par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est tout à fait important. Tous ces documents sont disponibles sur le site de l'ambassade, et donc c'est tout à fait important. Vous parliez de quarantaine. Alors deux observations à cet égard. D'abord, elle a une quarantaine française. Comme vous le savez, le gouvernement français, par la loi du 11 mai, a rendu possible, je dis bien rendu possible, une mesure de quatorzaine et non pas de quarantaine pour les ressortissants qui rentreraient dans le pays. Mais il a été décidé que ces mesures ne seront pas appliquées à des personnes qui viennent de l'espace Schengen. Ça veut dire que quelqu'un qui vient du Portugal ne sera pas soumis à ce système de quatorzaine. Ça ne concerne que les pays que les personnes qui viennent.
Ça visait vraiment l'Asie, non? Ça visait vraiment les gens qui venaient d'Asie.
Ça vise tout ce qui est en dehors de l'Union européenne, puisque oui. Vous le savez, la frontière extérieure de l'Union européenne a été fermée d'un commun accord par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, pour la mesure de quarantaine que vous venez d'évoquer, prise avant-hier par le Portugal, par l'Espagne.
Ouais.
C'est effectivement un sujet de préoccupation pour le Portugal et pour l'Espagne. Le dispositif tel que l'on le connaît, c'est qu'à partir de ce vendredi et pour une durée de 14 jours, il y a une quarantaine systématique. Il y a en ce moment des discussions, vous l'avez bien évoqué, ou plutôt Vincent Barros l'a bien évoqué dans le journal, des discussions qui sont en cours à l'heure où nous parlons, avec les autorités portugaises et avec les autorités françaises pour gérer cette question du transit et faire en sorte que cette mesure de protection que l'on peut comprendre du point de vue espagnol ne soit pas au détriment de la circulation. Donc, des discussions sont en cours sur les modalités très concrètes et opérationnelles de cette quatorzaine. Et j'espère que dans les heures qui viennent, nous serons en mesure de pouvoir bien informer les ressortissants français.
La discussion, c'est d'essayer de demander aux Espagnols de laisser passer les gens qui ne font que passer, justement.
Voilà, exactement. D'ailleurs, mutatis mutandis, comme ce qui s'est passé entre le Portugal et l'Espagne. Comme vous le savez, en mars, vous vous souvenez que le Portugal et l'Espagne ont décidé de fermer la frontière commune, sauf à 9 points de passage, et avec des exceptions de passage pour justement les personnes qui revenaient en France et étaient résidentes en France. Donc exactement dans la même disposition d'esprit, des discussions sont en cours pour faire en sorte que le transit soit possible pour toute une série de catégories de populations.
Ouais. Je me rappelle très bien, je suis passé, j'ai traversé l'Espagne le 18 mars.
Donc. C'était quasiment le dernier jour, vous l'avez vécu en direct. Ouais. Vous auriez dû dire, d'ailleurs, vous avez fait un petit reportage.
Non, c'était le premier jour de la fermeture des frontières.
C'est ça. Et vous avez pu encore passer, mais bon, ouais, je crois que vous l'avez fait exprès pour juste pour faire un reportage.
Alors, j'ai des ancêtres contrebandiers, moi. Je suis un descendant de Ramuncho.
Alors, justement, par rapport à ça, Jean-Guillaume, je crois que vous aviez.
Par rapport à ça, donc vous avez rappelé les catégories de.
Ah, il y avait les étudiants.
De se déplacer. C'est-à-dire qu'aller garder ses petits enfants, c'est pas un motif suffisant. Hein.
Non, c'est pas un motif suffisant. Alors effectivement, il y a deux catégories sur lesquelles on peut peut-être mentionner des dispositions particulières. C'est effectivement, Thierry vient de le mentionner, les étudiants. Donc les étudiants français, eux peuvent rejoindre à tout moment leur famille en France, sous réserve de produire les justificatifs que je vous ai décrits à l'instant. Il y a une autre catégorie qui est régie de manière spécifique, et les choses d'ailleurs sont en cours d'évolution, c'est les travailleurs saisonniers. J'imagine que nous sommes sollicités et interrogés beaucoup par cette catégorie de population. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas, encore une fois, il faut être très précis, hein, aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés à entrer en France, sauf dérogation donnée au cas par cas. Et il y a en ce moment des assouplissements qui sont envisagés par les autorités françaises, et nous attendons de la part du ministère de l'Intérieur, dans les jours qui viennent, vraiment ça va être très rapide, de nouvelles directives précisant les conditions particulières qui permettent à certains travailleurs saisonniers d'entrer en France. Donc on voit bien que c'est un sujet qui n'est d'ailleurs pas spécifique à la France, hein, ce sujet des travailleurs saisonniers agricoles est un sujet que partagent beaucoup de pays européens. Et donc là, on va avoir sans doute une évolution du dispositif.
Alors, on n'a pas assez de chômeurs pour aller chercher des. Puis on va en avoir quelques-uns, a priori, des chômeurs là en plus. Donc on pourrait les occuper dans les travaux saisonniers agricoles. On pourrait les envoyer cueillir les pommes et faire les vendanges.
Ouais. Alors justement, par rapport à ça, Madame l'ambassadrice, vous avez parlé de conditions dérogatoires. Est-ce que dans ce cas-là, ces personnes qui se trouvent forcément et peut-être même en extrême précarité, qui n'ont pas forcément les moyens ou autres, peuvent-ils être aidés financièrement? Et puis deuxième question, est-ce que c'est auprès des services de l'ambassade justement qu'ils doivent prendre à tâche pour avoir peut-être une dérogation exceptionnelle pour pouvoir rentrer en France?
Alors, encore une fois, sur le passage par l'Espagne, attendons de voir ce que les discussions entre les trois pays concernés donnent sur les modalités précises. Et il est possible, comme vous le disiez tout à l'heure, que des attestations soit finalement décidé pour que le transit puisse se faire. Donc, encore une fois, c'est en cours de discussion à l'heure où nous parlons, et je pense que d'ici vendredi, puisque la décision, la nouvelle mesure espagnole doit entrer en fonction, en vigueur vendredi, d'ici vendredi, nous aurons des dispositifs, un dispositif précis. Concernant ce registre des Français qui veulent revenir en France, il faut quand même être bien conscient du fait que selon nos données, encore une fois, ça n'est peut-être pas exhaustif de la réalité, mais nous avions un peu plus de 1000 personnes au début de la crise, des Français de passage qui voulaient revenir en France. Aujourd'hui, nous sommes à une petite soixantaine, Et ce sont en général, effectivement, vous avez raison de le mentionner, des gens qui ont des difficultés d'ordre financier et qui ont décidé, parce qu'ils ont des connaissances au Portugal, qui ont décidé de rester au Portugal le temps que les choses s'améliorent et que notamment les avions, les vols soient plus nombreux. Donc certains sont dans des situations compliquées. On les aide, en tout cas on les aiguille pour qu'ils puissent avoir les aides dont ils ont besoin. Mais voilà, et c'est un nombre, c'est toujours trop de personnes sans doute, mais c'est un nombre limité que nous avec lesquels nous sommes en contact, avec lesquels les consuls honoraires aussi sont en contact parce que ces personnes ne sont pas toutes à Lisbonne et donc j'allais dire c'est sous contrôle d'une certaine manière. Et ils ont décidé, ces personnes ont décidé pour la très grande majorité d'entre elles de rester, de vivre le confinement au Portugal.
Tout à fait. Alors
donc si on résume, il est possible de rentrer en France quand on a une bonne raison, une des 9 raisons indiquées dans l'attestation de déplacement international. Et le mieux, ça reste l'avion. Hein, pour aujourd'hui, ça reste l'avion du fait du confinement en France. En Espagne, pardon. De l'exigence
de quatorzaine, la quarantaine.
De la quatorzaine, voilà. Absolument. Et c'est vrai, vous avez bien résumé. Et attendons de voir ce que les discussions entre les 3 États concernés donnent dans les heures qui viennent.
Voilà, et c'est le même problème, bien entendu. Si les gens veulent venir au Portugal, c'est exactement la même chose qui s'applique. Simplement que le Portugal, lui, autorisait un petit peu plus la notion de venir voir sa famille, et de
Alors,
tourisme.
Sur ce sujet de l'autre sens, si on peut dire, donc des Français qui veulent venir au Portugal, là aussi, il faut être très clair, hein, les voyages d'agrément, j'appellerais d'agrément, oui, pour venir voir sa famille installée au Portugal, ne sont pas autorisés, hein, sauf motif familial grave, c'est-à-dire porter assistance à une personne vulnérable, en cas évidemment de décès, ou pour des motifs professionnels. Donc, il faut pouvoir... exactement en miroir de ce que j'ai dit tout à l'heure, les citoyens français qui résident au Portugal peuvent venir au Portugal parce qu'ils résident au Portugal et ils doivent pouvoir montrer un justificatif de domicile. C'est très important parce que les contrôles sont quasiment systématiques. Hein. Donc, il faut absolument qu'ils soient porteurs d'une attestation délivrée par la mairie et éventuellement du certificat d'inscription sur le registre consulaire. Tout ça est très précis. Hein. Il n'y a pas plus de laxisme dans un sens ou dans un autre.
Et d'où l'importance. Et d'où l'importance de s'inscrire sur auprès des services de l'ambassade. Quand on ne cesse de le rappeler qu'il faut s'inscrire, eh bien là, on en voit vraiment pourquoi c'est nécessaire et pourquoi il faut faire cette démarche. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse, Madame l'ambassadrice.
À qui le dites-vous ? Tout à fait. Donc, vraiment, c'est très important d'avoir tous ces documents d'identité, de résidence et de voyage. Tout ça est sur le site également. Et j'invite vraiment vos auditeurs, et merci de l'avoir mentionné plus tôt, à regarder le site qui est actualisé vraiment multi-quotidiennement. Et dès que nous avons un nouveau document qui émane du ministère de l'Intérieur ou d'une autorité française ou d'une autorité portugaise, mais surtout d'une autorité française, nous mettons vraiment en temps réel tous ces documents à la disposition des ressortissants, et c'est tout à fait important. Alors, pour les perspectives, puisqu'on parlait quand même de l'été, là, je crois qu'il faut être, très prudent à ce stade, à l'heure où nous parlons le 13 mai. Comme vous le savez, on l'a déjà évoqué, la frontière extérieure de l'Union a été fermée au niveau européen et sa réouverture devra faire l'objet d'une décision européenne le moment venu. J'ai pas le sentiment que ça va être tout de suite, vu l'état de la pandémie dans beaucoup d'autres pays extra-européens. Pour ce qui concerne de l'intra-européen, donc on a fait le point sur la circulation dans les deux sens, il a été convenu au niveau européen également par les ministres du tourisme et par les ministres de l'intérieur qu'il y aurait une concertation, une coordination sur les modalités de réouverture des frontières internes. Aujourd'hui même, la Commission européenne doit mettre sur la table ce qu'on appelle des lignes directrices, donc un certain nombre de critères qui permettront aux États de prendre de manière concertée des mesures de réouverture. Et il y aura demain une première réunion des ministres de l'Intérieur européens qui vont examiner ces lignes directrices de la Commission et qui vont avoir un premier échange sur les modalités de réouverture des frontières. Donc, je crois que c'est très important, cette concertation. Ça n'est pas une décision communautaire, hein, attention, ce sont les États qui décident chacun pour eux-mêmes, mais sur la base de critères partagés, communs, que la Commission met ce jour sur la table des ministres.
Celle qui est faite par Thierry Breton, hein, c'est ça.
Un des critères sera l'état de la pandémie, avec tous les paramètres que vous connaissez, les clignotants des uns et des autres, hein, notamment le nombre de personnes qui rentrent en soins intensifs, etc. Enfin, on connaît ça par cœur. Et donc voilà, il y aura une concertation et j'espère que les décisions seront le plus coordonnées possible pour qu'il n'y ait pas de hiatus entre deux pays qui sont frontaliers, qui ont une situation comparable et qui prendraient des décisions contradictoires. Donc voilà l'état du sujet pour ce qui est aujourd'hui, et je crois que c'est très important d'avancer pas à pas, d'être pragmatique et progressif, hein, graduel.
Donc en quelque sorte, cette réflexion et cette coordination, ça va être le feu vert ou le feu orange ou le feu rouge à une renaissance des voyages touristiques.
Tout à fait. Alors, c'est vrai, mais je crois que les États, enfin certains États européens, ont déjà donné quelques signaux. Vous avez noté que le Portugal, la France, l'Italie ont incité leurs ressortissants à faire du tourisme dans leur pays, ne serait-ce que parce que ça permettrait de redonner une petite lueur d'espoir au secteur touristique, et ont incité à privilégier les destinations intra-européennes. Donc, ce sont deux orientations qui ont été d'ores et déjà données par des pays pour qui l'industrie du tourisme est extrêmement importante, et des orientations pour que les citoyens puissent commencer à envisager les vacances. Donc, c'est plutôt du local ou de l'européen, d'où l'importance, effectivement, vous avez raison, de cette coordination pour rouvrir les frontières. Moi, je crois que il ne faut pas attendre une décision avant la mi-juin. Ce ne serait pas raisonnable de dire que ça va être fait dans les jours qui viennent. Je pense qu'il y aura plusieurs réunions de ministres. Il y en a une première demain, il y en aura d'autres. Et encore une fois, ce qui me frappe, c'est le souhait des ministres d'une coordination maximale.
Pour rebondir sur l'Europe et pour agrandir un peu notre vision, on s'est rendu compte, c'est dire si on regardait ailleurs, de notre énorme dépendance à l'industrie chinoise, y compris sur des domaines aussi stratégiques que les molécules actives pour les médicaments. Est-ce que vous pensez que quelque chose va enfin changer? Est-ce que on peut imaginer que des pays ou l'Europe impose à certains industriels de relocaliser au moins certaines choses aussi stratégiques qui pourraient nous éviter des embêtements bien plus graves en cas de nouvelle crise?
Absolument. La crise sanitaire a vraiment mis en lumière quelque chose que nous connaissions déjà, hein, qui n'est pas nouveau, mais a vraiment jeté une lumière très crue sur la dépendance de plusieurs pays européens, de tous les pays européens, à l'égard de pays tiers, notamment la Chine, concernant la production et la fourniture de biens essentiels, et notamment médicaux. C'est un des enseignements, à l'évidence, que nous sommes tous en train de tirer de cette crise, et je suis très frappée de la fermeté des autorités portugaises, des autorités françaises, pour, dans le plan de relance européen qui est en cours d'élaboration, eh bien, le renforcement de l'autonomie stratégique soit vraiment un principe important et la capacité à produire sur le sol européen des biens essentiels en matière sanitaire, en matière alimentaire, c'est tout à fait important aussi, en matière industrielle et de défense. Donc oui, c'est un enseignement. Je lisais avec beaucoup d'intérêt l'intervention la semaine dernière du ministre des Affaires étrangères portugais qui parle de réindustrialisation en Europe, et donc il y a une conscience d'une vulnérabilité, d'une dépendance, et je suis persuadée que dans la reconstruction économique qui est devant nous, ce point sera en haut des priorités.
Et avec le Portugal qui va pouvoir avoir des atouts concurrentiels sur par rapport à l'ensemble des pays européens qui sont loin d'être négligeables en termes de main-d'œuvre, en termes de qualification, en termes de proximité, en termes de stabilité. Il y a peut-être une grosse carte à jouer de la part des autorités portugaises pour attirer cette réindustrialisation. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il y a une carte à jouer, mais je crois que l'essentiel, c'est plutôt la réindustrialisation dans l'ensemble des pays européens. Alors peut-être avec une répartition, mais le sujet, il n'est pas tellement va-t-on se faire concurrence entre nous, mais l'enjeu, il est c'est celui que nous disions tout à l'heure, de recréer des capacités de production dans les pays européens. C'est ça l'enjeu, plus que savoir qui va tirer son épingle du jeu au maximum. Honnêtement, l'enjeu aujourd'hui, c'est rapatrier en Europe, dans les pays européens, avec des systèmes d'allocation de ressources sans doute, mais et d'atouts comparatifs, comme vous l'avez bien dit. Mais le sujet, c'est quand même de faire en sorte que ça revienne en Europe pour réduire cette fragilité qui nous a tous pénalisés énormément.
Et vous pensez qu'on trouvera un gouvernement européen suffisamment inconscient pour dire à Sanofi, c'est comme ça, sinon, et pas autrement ? Et que Sanofi va pas essayer d'aller quand même tout produire en Moldavie parce que c'est quand même moins cher qu'en Roumanie, qui est moins cher que machin, etc., etc.
Modalités, c'est trop tôt et je vous avoue que je ne les connais pas, mais je sais que les discussions, en tout cas au ministère de l'économie, Bruno Le Maire s'est vraiment emparé de ce sujet. Et je suis sûr que les dispositions sont prises pour faire en sorte que cette conscience devienne une réalité.
Que cette conscience devienne une contrainte. Hein. L'État, c'est moi, et toi, tu n'es qu'un acteur économique.
Bien montré que les États de manière générale, hein, dans tous nos pays européens, ont repris une main très très importante sur un grand nombre de sujets, ce qui est assez logique et qui permet d'augurer positivement pour la suite.
Dieu vous entende, Excellence.
Alors, justement, on va aussi rappeler quand même que ce n'est pas parce qu'aussi au Portugal, on a un petit peu cette chance d'être déconfiné ou de se déconfiner, en tout cas d'une manière beaucoup plus simple, que pour autant, il faut abandonner les règles essentielles de sécurité sanitaire. Je pense que les gens doivent l'avoir en tête, qu'il faut bien entendu porter le masque le plus souvent possible, que les gens doivent respecter les distances barrières et vraiment essayer de... Voilà, à partir de lundi, les restaurants vont commencer aussi à réouvrir au Portugal, ce qui va peut-être donner un petit peu d'air justement à l'ensemble de cette profession qui, à l'heure actuelle, se retrouvait complètement démunie et sans aucune ressource. Mais je pense que vous serez d'accord avec nous, Madame l'ambassadrice, c'est vraiment d'inciter les gens et de dire aux gens de garder, de rester vraiment, de faire attention. Attention à eux, ce n'est pas parce qu'on réouvre que pour autant la crise est finie.
Absolument, vous avez très bien résumé les recommandations à faire. Il faut absolument que la responsabilité collective qui a été bien présente pendant toute la période du confinement demeure. Et il appartient à chacun d'entre nous de faire en sorte que le virus ne reprenne pas de sa circulation de manière exponentielle comme on l'a vu au mois de mars et au mois d'avril. Donc, la réponse, elle est chez nous. Elle est vraiment dans nos comportements quotidiens, dans dans la distanciation physique. Je remarque d'ailleurs que les établissements touristiques au Portugal ont déterminé ce label Safe and Clean, et il y a plusieurs milliers d'institutions qui ont obtenu ce label précisément parce qu'ils donnent des garanties désinfection sanitaire, mais aussi de comportement. Donc cet aspect des comportements est absolument essentiel, et il faut continuer à être vigilant, ne pas être anxieux, mais être vigilant, tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
Et en tout cas, Madame l'ambassadrice, je pense que nous tenions en tout cas à vous remercier d'avoir répondu bien à nos questions. Merci pour votre disponibilité, pour avoir passé...
Et la clarté de vos réponses.
Absolument, et d'avoir passé près d'une heure avec nous justement pour essayer de nous apporter non seulement votre vision, mais d'essayer de clarifier un certain nombre de points qui sont essentiels pour nos concitoyens qui s'interrogent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions. Donc nous tenions vraiment à vous remercier d'être venu aujourd'hui, de nous avoir d'avoir consacré une heure de votre temps. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice.
Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Je suis toujours à votre disposition et à celle des ressortissants français et francophones.
Merci à vous. Voilà, on va arriver tout de suite aux informations, les informations de midi, parce qu'il est exactement midi actuellement sur la French Radio. On va retrouver un journal de 2 minutes et puis ensuite, on aura de nouveaux intervenants. Merci encore, Madame l'ambassadrice, pour nous avoir vraiment apporté toutes ces réponses et d'une clarté, comme le disait Jean-Guillaume, vraiment, c'était très clair. Allez, on va parler parce qu'on sait que le mercredi, c'est une journée. Alors normalement, dans la tête des gens, le mercredi, c'est la journée des enfants. C'est la journée des enfants. Voilà, je confirme par la voix et sa présence. Bonjour Alicia.
Bonjour à tous.
Voilà, ça va très bien. On est ravis de vous accueillir sur l'antenne de la French Radio. On va parler quelques
Alicia,
minutes.
Alicia, un jour, elle sera décorée pour ce qu'elle fait.
Ouais.
Ce qu'elle fait pour les parents.
Pour les parents. C'est les parents qui vont se réunir et qui vont vous proposer.
Moi, je pense pas tellement aux enfants.
Ouais, non, vraiment pour nous.
C'est adorable.
Voilà,
merci.
On va vraiment.
On l'espère.
Ouais, on va vraiment insister pour que justement vous puissiez avoir une récompense. Alors, on va peut-être expliquer ce que vous faites. Vous faites du cyber-sitting. Alors, tout particulièrement le mercredi. Parce que le mercredi, comme on le disait tout à l'heure en introduction, c'est la journée des enfants normalement.
En plus aujourd'hui, il pleut.
En plus aujourd'hui, alors on va dire que le temps, vraiment, c'est pas terrible.
Et là,
ce que vous nous proposez, c'est de mettre nos enfants devant un écran. Et là, pour les parents, vous allez vous en occuper. Vous allez leur faire plein d'activités. Vous allez nous en parler dans une seconde. Et puis nous, pendant ce temps-là, on est tranquille. C'est ça. Je crois que j'ai bien résumé.
C'est exactement ça, Thierry, tout à fait. C'est moi qui gère les petits bouts de chou là pendant une heure. On s'éclate, on s'amuse, on rigole, on discute, on fait des jeux. Je vais dire un petit peu le programme pour aujourd'hui. Parce que mercredi, donc c'est le goûter entre copains. Donc plusieurs enfants se connectent, ils se connaissent pas forcément. Et puis moi je les mets à l'aise. Chaque enfant fait sa petite présentation. Et puis ensuite, c'est parti pour une heure de franche rigolade, on va dire. Et puis comme ça, les parents, ils ont une petite heure tranquille pour se détendre, soit pour faire une petite réunion par rapport au télétravail, passer un coup de fil, envoyer des mails, être juste peinard, pendant une heure. En général, ça dépasse souvent une heure d'ailleurs. On voit pas le temps passer.
En plus, les enfants peuvent converser en plus entre eux.
Ah oui, c'est le but exactement. C'est pas qu'ils restent juste devant l'écran en attendant que je leur dise de faire des choses. C'est plutôt justement le fait qu'ils puissent communiquer entre eux. Ah et toi, comment tu t'appelles? Ah moi j'ai tel âge. Ah moi aussi.
Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que le confinement commence vraiment à être lourd pour nous déjà, mais forcément encore plus peut-être pour les enfants, même s'ils le montrent moins.
Oui. Ils le montrent moins, mais c'est quand même le cas. Je pense qu'ils ont, quand ils ont pas forcément de frères et sœurs à la maison, ils sont tout seuls.
Vous voyez, moi hier j'étais dans la rue avec ma petite fille qui regarde un adulte et qui dit elle a pas de masque. Voilà. Donc ça a été une réaction. Ça montre à quel point les enfants aujourd'hui sont quand même
anxiogènes,
perturbés et regardent voilà. Si on reste là et on se dit. Oh là là, qu'est-ce que ça va donner demain dans la société de demain? Est-ce qu'il y aura des problèmes psychologiques? Donc c'est très bien ce que vous faites parce que justement ça donne un moment de
en plus, voilà. En plus, au prix auquel elle le fait, c'est vraiment des bienfaiteurs.
Voilà.
6,15 euros de l'heure.
Ouais.
Oui,
toute taxe comprise. Donc c'est 5
euros. TTC.
Donc là, on peut avoir. J'ai vu en plus que maintenant vous aviez ouvert plusieurs sessions. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un grand nombre d'enfants, à chaque fois ils seront quelques-uns pour pouvoir rester. Hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. On a pas mal de demandes, ce qui est super chouette. Merci à la French Radio d'ailleurs pour ça.
Mais on adore ce que vous faites. Donc on trouve que voilà, c'est moi personnellement, j'appellerais ça d'utilité publique.
Oui, exactement.
En ces moments, oui.
Voilà.
Et ça devrait contribuer à réduire les violences intrafamiliales.
Oui, aussi.
Pendant une heure.
Si ça peut aider à plusieurs niveaux, j'en suis ravie.
Bon, en tout cas, il va falloir le faire plus souvent. Bon, en tout cas, on a bien compris. Donc, les enfants font des jeux. Il y a plein d'activités. Puis, je crois qu'aussi, ça, vous viendrez peut-être nous en parler lors d'une prochaine intervention. Vous créez des nouvelles, des jeux, des nouveaux systèmes avec des clowns ou autres pour permettre encore plus de détendre les enfants, hein, c'est ça?
Oui, en fait, on est en plein développement finalement.
Bah, c'est génial.
Du coup, la boîte à idées, là, ça fuse. Il y a plein de nouvelles choses à mettre en place. Là, on va créer une nouvelle offre spéciale anniversaire parce que, bon, les parents ne vont pas forcément remettre les petits à l'école, là. Donc, on va dire que le confinement, entre guillemets, continue un petit peu pour eux. Et il y en a qui vont passer leur anniversaire à la maison, qui ne peuvent pas forcément avoir
Alors figurez-vous qu'en ligne, en plus, nous avons Julien Le Tartre, qui est... qui est quand même... Alors, je sais pas si vous vous connaissez déjà, mais c'est vrai que la communauté se connaît quand même. Oui. Et Julien est le président d'Eric Kaiser Portugal. Donc, quand on parle d'anniversaire et autres, je pense qu'il c'est un domaine qu'il connaît.
Il frétille du gâteau, là.
Voilà.
Et puis, j'écoute avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai des enfants aussi.
C'est pas mal.
Julien,
le service m'intéresse. Alicia, il faut qu'on parle.
Voilà.
Il n'y a pas de
souci. Il n'y a pas à parler, Julien. JoséphineConciergerie.com.
Voilà.
Il n'y a pas à parler.
C'est simple que ça. Il
faut juste se connecter.
On a une nouvelle manière d'être contacté, la plus simple en fait.
C'est quoi?
Je passe le mot.
C'est d'y penser.
On a créé une page Facebook spéciale Cyber Sitting.
Ouais.
Okay, sur Facebook. Et du coup, si vous voulez, en haut de la page, il y a un petit bouton WhatsApp. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez nous écrire directement. C'est le plus simple, plutôt que de passer par le formulaire du site, etc. C'est un peu lourd. Donc, vous passez par la page, le lien WhatsApp. Cliquez sur le bouton, vous envoyez un message et vous envoyez Cyber.
La page Facebook, elle s'appelle comment ? La page Facebook, elle s'appelle comment ?
Cyber Sitting, tout simplement. Sinon, vous allez sur la page de Joséphine Conciergerie, vous ne pouvez pas la louper, elle est là. Mais Cyber Sitting, ça s'appelle la page. Comme ça, vous nous contactez sur WhatsApp, vous écrivez Cyber.
Vous voyez, et d'être intervenu aujourd'hui, bien sûr, l'antenne de la French Radio, eh bien, ça permet aussi à différentes personnes de pouvoir communiquer, dont Julien Le Tartre, justement. Et après, vous pourrez peut-être retrouver...
Et puis en plus, Julien fête son anniversaire bientôt et il aura peut-être besoin que vous convoquiez ses amis.
Le petit.
Parfait. On peut aussi faire pour les adultes, hein, s'il faut. On est multicasquettes.
En tout cas, merci beaucoup, Alicia. Si vous voulez rester avec nous, bien entendu, vous pouvez rester participer. Julien, maintenant, va nous parler. On est dans, bien entendu, et vous l'avez tous compris, dans la mission. Là, il intervient. Boum, boum, boum. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tomber.
Bagarre.
Il y a une bagarre.
Non, c'est un café qui est en train de se faire.
En direct
dans la boutique.
Ah, dis donc, vous cognez fort chez vous. J'espère que c'est pas
vie,
un client.
La vraie vie.
J'espère que c'est pas un client qui en a reçu une comme ça. Parce que sinon, ça m'inquiète de
venir. On traite bien nos clients.
C'est vrai, je peux le dire. Et donc, maintenant, Julien, comme on est en train évidemment de le découvrir, que les restaurants commencent à faire du takeaway, eh bien, vous aussi, vous appliquez aussi la même règle, hein, c'est ça, au niveau. Alors, expliquez-nous un petit peu.
Alors, nous, on n'a jamais fermé de toute la crise. On a fait le choix de rester ouvert. Et puis, on avait la chance d'être, étant boulanger, on avait le droit d'être ouvert. Mais on a voulu aussi par là montrer aux Portugais qu'on était là dans les bons moments, on avait été bien accueillis, on était aussi là dans les mauvais moments. Et je dois dire que la réaction de nos clients est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude du fait d'être ouvert. Mais bon, on prend quand même la la crise en pleine figure, hein, comme tous les, comme tous mes confrères, et ça nous a obligés à réfléchir à notre mode de fonctionnement. Et on a développé les livraisons à domicile. Pour s'amuser un petit peu au début, puis en fait ça marche très bien. Et donc aujourd'hui nous avons un service tous les jours, alors du mardi au samedi sur Lisbonne, et nous allons jusqu'à Qashqai chez Storitz, qui est une grosse demande des clients. Et donc nous livrons tous les samedis à Qashqai chez Storitz, enfin ce qu'ils appellent la ligne.
Voilà, c'est-à-dire la ligne, c'est-à-dire que me dites pas que vous prenez le train, sinon on va venir vous arrêter, prendre les produits sur le, on va trouver la personne avec les tartes, avec les gâteaux.
On va jusqu'à votre porte.
Voilà.
C'est bien ça.
Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est très, très bien. Je peux le dire.
Et alors, ça marche? Il y a beaucoup de demandes?
Alors, on a énormément de demandes. Ça a été vraiment et là encore, en fait, c'est ce qui est super intéressant. Comme on est un peu débordé, je fais moi-même des livraisons pour aider mes livreurs, qui sont des livreurs internes, hein, sont des gens qui travaillent toute l'année avec nous, qui en général livrent les hôtels et les restaurants. Donc là, en ce moment, ils ont un peu moins de travail. Et la réaction des gens est super sympa, parce que je retrouve des clients que j'ai l'habitude de voir dans les boutiques et qui sont hyper heureux. Je vois des enfants avec des étoiles dans les yeux derrière en disant « Ah, quelle heure est arrivée ?» C'est vraiment une belle expérience en fait.
Et comment on fait pour commander?
Alors c'est ultra simple. On a monté. On n'est pas aussi technologique que le cyber sitting, mais on est des boulangers. Hein, on est assez.
Vous n'êtes qu'un boulanger après tout.
Voilà. Ouais. Mais on a su créer un numéro WhatsApp qui est le 916 073 754 et qui permet d'envoyer un message en disant je voudrais recevoir telle chose, et on envoie toutes les semaines à nos clients les offres de la semaine. On a fait par exemple le pour la fête des mères, on a fait une tarte aux fraises qui était un succès, on a été en rupture. Et toutes les semaines, on va essayer de faire une proposition de gâteau pour le week-end. Et voilà.
916 073 754.
Exactement.
Voilà. Et on l'indiquera d'ailleurs sur le site pour que les gens.
Julien puissent... est très gentil aussi, dit s'il te plaît. Oui.
Voilà. Bon, et ben en tout cas, Julien, excellente initiative. Merci beaucoup. Puis je sais que vous viendrez nous parler très prochainement de nouvelles initiatives qui sont en cours actuellement, si je ne m'abuse.
Exactement.
Voilà.
Les restaurants vont réouvrir lundi prochain. Mmh. Donc nous allons pouvoir à nouveau accueillir des clients dans notre salle. Là, je suis dans la salle. J'ai une grande salle pour moi tout seul. C'est démoralisant. Donc on est ravis de voir. Même si on aura moins de capacité, puisqu'on est en train de préparer la salle pour que les distances de sécurité soient respectées. Donc, on va à peu près diminuer par deux notre capacité de salle. Mais tous mes confrères français qui ont lancé des belles initiatives au Portugal aussi vont réouvrir. Et donc, on est en train de préparer des actions de solidarité en commun pour soutenir cette activité.
C'est super de voir justement que la communauté a su se mobiliser, et justement donc j'espère que nos auditeurs accompagneront ces belles initiatives. Alors je voulais juste te dire quand même une chose, parce que je voulais pas vous interrompre pendant que vous parliez, mais quand vous dites j'étais seul, je suis seul dans mon espace, finalement vous êtes peut-être pas si mal, parce que quand on vous voit quand même entouré de croissants, de pain au chocolat et tout, de baguettes qui sont
chocolat.
Hein? Non, pas au chocolat.
Pas au chocolat. Pas au chocolat.
On a bien entendu.
Les tartes aux fraises et tout. Franchement, Julien.
Non, je suis pas plein.
Je vais exactement. C'est ce que je voulais dire. On va peut-être pas vous plaindre. Hein. Donc, franchement, voilà. Je sais pas si pour vous, en tout cas, vous savez qu'en France, ils ont pris le poids des personnes et ils se sont rendus compte que chaque Français avait pris plus de 2 kilos. Bon, je ne vous pose pas la question, mais je pense que.
Non, c'est gentil.
Faudra se remettre au sport. Bon, Julien, en tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée.
livraison en vélo, je veux dire.
Ouais. Voilà, donc on a bien noté que...
Bonne idée. Que... Et Jean-Guillaume est candidat pour venir m'aider à faire la livraison.
Exactement, ouais, moi aussi.
Et ça ferait le buzz, la livraison faite par Jean-Guillaume Dufour à vélo.
Voilà.
Ouais, ça ferait le buzz, mais alors il ne faut pas prévoir quand même de m'envoyer à Alfama.
Et je vous paye en chocolatine.
Ah. Les fameuses chocolatines qu'Alicia, dont Alicia rêve.
Bon, on va peut-être les revendre à Alicia, oui, qui les fera passer sur les goûters des enfants du cybercity.
Oh, ouais, c'est pas mal ça, une bonne idée ça. Ouais.
Voilà. Alicia, on pourrait faire un truc assez rigolo, c'est de pour les anniversaires, envoyer un kit à chaque enfant de d'anniversaire.
Eh ben justement, il faut qu'on se parle. Ça fait partie du projet. Donc oui, on va discuter, Julien. J'arrive.
Voilà, voyez
une petite commission pour la. Vous pensez à une petite commission pour la French Radio, s'il y a des fins de mois
difficiles. Et vous voyez comme quoi la radio, eh bien, c'est réunir justement.
C'est la radio, c'est du business. Hein.
C'est réunir les personnes, c'est leur permettre évidemment de pouvoir échanger, communiquer. Donc si on peut réussir cela, bah on est ravis, on fait notre mission. Julien, à très très bientôt. Bonne livraison.
À très bientôt, merci beaucoup.
Bonne préparation pour lundi. Merci beaucoup, Alicia. Donc, on rappelle votre activité, le cybersitting, c'est Joséphine Conciergerie et c'est un concept exceptionnel pour les parents parce que au moins ben là on sera un petit peu tranquille et nos enfants vont être occupés donc on va faire voilà moi je me demandais d'ailleurs que vais-je faire de mes enfants cet après-midi donc là je crois que vous venez de m'apporter encore une réponse et puis maintenant voilà et puis on va recevoir tout de suite Jean-Guillaume, vous allez nous parler d'une recette aujourd'hui. On va recevoir
un autre livreur fou. François.
Exactement. Comment vous dites? Un autre livreur fou. Blood Wine. Fou, oui. François. Hello, François.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Ouais, mon pauvre, hein, on vous a fait attendre longtemps. Hein. C'est vrai que vous étiez dans les starting blocks, mais la présence de Madame l'ambassadrice était évidemment... On a eu une très très belle émission où on a essayé de répondre le plus à toutes les questions que les auditeurs pouvaient se poser. Et bien entendu, cette émission se retrouvera dès demain en podcast sur le site de la frenchradio.pt. Et je sais que François, eh bien, vous avez sûrement dû l'écouter comme vous écoutez bien entendu. Quasiment tous les jours, nos émissions et que vous intervenez pour nous trouver les vins en adéquation avec les desiderata et de Monsieur Jean-Guillaume Dufour pour ne pas présenter.
Non, c'est des recettes.
Thierry, je vais vous dire, j'ai pas eu la chance de l'écouter pour une bonne raison. Vous connaissez la chanson Promenons-nous sous la pluie?
Ouais. Et vous l'avez vécu en plus. Ouais.
J'ai fait la même chose en livraison, donc je peux vous dire, ça se voit pas à l'image, mais je suis trempé.
Je me doute.
Parce qu'à Lisbonne, c'était violent.
Ouais, absolument, je vous le confirme. Je vous le confirme.
Parce que lui, il livre à vélo, hein. Il livre 12 caisses de pinard à vélo.
Voilà, bien, on remercie Julien Le Tartre d'être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Je rappelle qu'il est le président d'Eric Kaiser, donc les boulangeries Eric Kaiser, au Portugal. Jean-Guillaume, c'est à vous.
Aujourd'hui, une recette, mais une recette de grand-mère, un truc qui est tellement facile à faire, qui est long. Mais ce qui est long, c'est la cuisson. Donc vraiment, ça ne va pas vous demander beaucoup de travail. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Un jour de pluie comme ça, un bon bœuf carotte, je peux vous dire que c'est divin. Il est très simple à faire. Les ingrédients sont les suivants. 600 g de joues de bœuf, 600 g de paleron, 2 oignons, 2 kg de carottes. On parle pour 6 personnes. Hein. Poivre et sel, bien sûr. 2 cubes de bouillon de bœuf. Une cuillère à café d'ail semoule. 3 cuillerées à café de concentré de tomate, un peu de beurre et du vin blanc, 1 demi-litre de vin blanc. On commence par prendre une grande cocotte, on fait fondre le beurre et dedans, on met nos morceaux de viande. Donc, les 600 grammes de joues de bœuf et les 600 grammes de paleron, on les a débités en morceaux, évidemment, d'une centaine de grammes chacun. Et on les met à colorer et à revenir dans ce beurre. Il faut vraiment le faire sortir les sucs. Hein, quand on fait... colorer de la viande comme ça, on a des réactions chimiques qui donnent des goûts qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc, c'est vraiment important de bien le faire. Ensuite, on incorpore les oignons qu'on aura coupés, bien entendu. Là, il se moule le sel, le poivre. On déglace tout ça avec le demi-litre de vin blanc. On prend une cuillère en bois et on tourne bien et on gratte bien les sucs de cuisson de la viande pour les intégrer dans le vin blanc avec les oignons, etc., pour vraiment faire une sauce qui va avoir un goût. On rajoute les 3 cuillerées de concentré de tomate. On mélange ça gentiment. On émiette les 2 bouillons cubes de bœuf. On rajoute un tout petit peu d'eau, deux verres d'eau. Et on laisse cuire au moins 2 heures, très doucement. Moi, j'aime bien ces viandes-là, il faut vraiment les mijoter. La cuisson rapide de ces viandes de bœuf, elle n'a aucun intérêt. Il faut les laisser mijoter. Elles vont donner leur suc, elles vont être tendres, elles vont être moelleuses, surtout la joue. Au bout de 2 heures où on a cuit ça à feu très doux, on pèle les carottes, on les coupe en rondelles, on met les carottes avec, on recuit pendant 45-50 minutes. Et on a notre plat qui est prêt à manger, qui est bon. Vous pouvez faire la veille, vous pouvez faire réchauffer. Enfin, ça, c'est vraiment des plats de mijotage. Donc, ça, c'est vraiment pas des cuissons rapides et minutes. Et qu'est-ce qu'on boit avec ce bœuf carotte, François?
Avec ce bœuf carotte, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Bah, écoutez, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On va aller chercher des vins gourmands. On va commencer par le vin français. On va aller chercher des cépages assez gourmands et on parle de Grenache et de Carignan. Donc, on va aller du côté du Roussillon. L'idée, en fait, du vin, c'est d'aller chercher quelques tanins pour la viande, mais il faut aussi accompagner la carotte, la douceur de la carotte. Donc, ça va être un vin gourmand, mais puissant sur les tanins, tout en conservant cette petite douceur autour de la carotte. Et on va aller au domaine du Clos des Fées, que j'aime beaucoup, et on va aller sur un vin qui s'appelle les Vieilles Vignes 2016. Donc on est sur un vin assez jeune et ça va très très bien se marier. On va avoir un bel équilibre entre notre viande, nos carottes et nos petits vins, et après ça on va être très bien.
J'aime beaucoup le Carignan, qui est un cépage un peu rustique, mais c'est vraiment quand il est cultivé un petit peu en altitude, ça donne vraiment des trucs exceptionnels.
Et donc, Clos des Fées, c'est exactement ça. Alors, si vous connaissez le Clos des Fées, j'ai déjà parlé de la personne qui fait les vins, qui est un ancien sommelier qui s'appelle Hervé Bizol. Et sa cuvée, qui est une cuvée assez exceptionnelle, s'appelle la Petite Sibérie. Et vous savez pourquoi? Parce que la Petite Sibérie, c'est une sorte de cirque, donc petite zone montagneuse en arc de cercle, qui est baignée de vent frais. D'où l'appellation la Petite Sibérie.
Et donc, c'est un petit peu en altitude, c'est à côté de Saint-Paul, comment ça s'appelle par là? Oh, je crois que je connais, oui, je crois que je connais.
On va demander à Thierry s'il connaît la géographie un petit peu du Roussillon. D'ailleurs, je dis souvent, c'est la partie catalane. Hein. Et c'est très important pour lui, on n'est pas au Roussillon, on est sur les côtes catalanes. Et ça,
Oui, je vous écoute.
Et ça, c'est des vins faciles à boire et qui accompagnent très bien ces plats traditionnels. On pourrait même l'envisager sur, pourquoi pas, un bœuf bourguignon. Donc, des choses un petit peu en sauce, et très agréable.
Saint-Paul de Fenouillet, c'est pas par là? Le Val d'Agly, tout ça, c'est pas...
Le Val d'Agly, oui. Exactement.
Ouais, c'est ça. Oui.
Et d'ailleurs, son projet, c'est qu'il avait découvert des vignes anciennes qui n'avaient pas été exploitées et qui étaient en passe d'être arrachées, et il s'est dit c'est pas possible, c'est tout notre patrimoine, notre culture, je vais refaire du vin. Donc forcément c'était un petit peu compliqué au départ, et maintenant c'est un des domaines qui monte, qui a une vraie reconnaissance sur la qualité de ses vins et qui fait des choses relativement abordables jusqu'à des bouteilles, des cuvées assez onéreuses mais assez exceptionnelles, qui sont très très recherchées par notamment les grands amateurs.
Mais il y a effectivement un terroir et un climat par là qui est le Val d'Agly. Enfin, moi, j'ai déjà. Et il y a des trucs qui ont vraiment des typicités qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Notamment sur le Carignan.
Alors, on était en France. Côté portugais, on va aller chercher un petit peu de gourmandise. Un vin que j'adore. Déjà, j'aime beaucoup la région du Daon. J'en parle souvent parce que c'est vraiment des vins qui ont une certaine finesse. Mais là, on va partir sur un vin qui est exclusivement fait de Touriga National. Donc, on a plus de puissance. Mais un vin qui est de 2012, qui s'appelle Pape. P-A-P-E. Pape. Et ça, c'est un vin qui est très sympa parce que 2012, on est sur une Touriga National assez puissante. Mais les tanins se sont arrondis. Donc sur notre côté viande, mais aussi sur la douceur de la carotte, ça va très très bien s'accompagner. Et c'est un vin de plaisir. Franchement, c'est un des vins assez méconnus, je dirais, du Daon, qui est fait par la Quinta da Pelada. C'est pareil, un des grands vignerons et viticulteurs de la région. Et ça, c'est un vin qui va très très bien s'équilibrer avec notre plat du jour.
Une petite idée de prix de ces deux vins, François ?
Alors, le Clos des Fées, on est à 25 euros. Et sur le Pape, on doit être à 32 euros, si je vous dis pas de bêtises. Donc, des vins un petit peu plus, sur un 2012, donc des vins un petit peu plus chers qu'habituellement. Mais aujourd'hui, il pleut, donc on va se faire un bon repas, on va boire un petit coup, et puis on va faire une petite sieste, non?
Exactement. Et on va faire la sieste, et pendant que les enfants font au cyber-sitting.
Exactement.
Et vous allez avoir le temps de faire la sieste?
Moi, jamais.
Ah bah alors
mais
ah ouais, parce que comme je vous entends en parler, je me pose la question, je me dis mais comment peut-il faire les deux, allier voilà entre toutes les commandes que vous devez livrer, puis alors est-ce que tiens, j'avais une question, est-ce que les demandes sont aussi importantes qu'au tout début du confinement ou plus?
Alors
oui, parce que maintenant vous êtes hyper connu, comme vous passez tous les jours sur l'antenne pour nous parler.
Exactement.
Ouais, voilà. Maintenant, grâce vous êtes une star. Maintenant vous êtes devenu une star.
Je suis devenu millionnaire en un confinement.
Voilà. J'ai qu'une hâte, c'est que ça reconfine. Non, je plaisante. Non, mais alors, ce que vous disiez ce que disait Julien d'ailleurs aussi sur les restaurants, c'est qu'en fait, on doit tous, sur nos différents business, que ce soit lié au métier de bouche ou pas, se projeter sur un mode de consommation différent. Et donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai énormément de commandes pour des montants en termes de quantité assez importants. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une certaine facilité quand vous êtes client, quelle que soit l'activité. Si vous connaissez la personne qui vous vend les produits, c'est simple de dire, tiens, je connais bien ces produits, je voudrais ça, 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 vous choisissez, vous faites livrer. Et en particulier pour le vin qui est assez lourd, c'est quand même assez pratique.
Ouais.
Mais bon, c'est valable, on parle du prêt à emporter pour les restaurants, ça c'est quelque chose. Si après, pour les biens culturels, demain, vous pouvez très bien aussi commander vos livres.
C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une librairie qui fasse ça aussi, oui.
Il y en a une à Principe. Alors, je ne sais pas s'ils livrent, mais ils ont été un petit peu ouverts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'Amazon, mais c'est multinational.
Amazon, en termes de conseils, c'est déplorable. Enfin, je veux dire,
voilà. Donc c'est l'idée, c'est d'aller voir les commerçants locaux qui vous connaissent, qui connaissent les produits, qui connaissent vos goûts et qui peuvent vous conseiller. Et même parfois c'est drôle, hein, j'ai plein de clients qui me disent je voudrais une sélection de tant de bouteilles, je vous laisse la main. Donc c'est aussi sympa, ça crée une relation un petit peu différente avec les clients. Julien disait que quand il allait livrer, les clients étaient ravis de voir. C'est une façon de garder le lien avec les clients et puis de leur apporter un petit peu de bonheur par le biais d'une livraison de pain, de tarte aux fraises, de tarte aux framboises, de vin, de tout produit consommable ou, je vous disais, culturel.
Ouais, c'est vrai.
Alors, j'oublie pas, parce qu'on est un petit peu à la bourre aujourd'hui, Thierry, je le sais. Demain, 12h, nous aurons le plaisir d'accueillir Samuel Guibert. Samuel Guibert, c'est quelqu'un de fort sympathique, mais qui produit des vins exceptionnels, qui sont les vins du Mas de Mas Gassac. Voilà, donc c'est une belle histoire familiale et il vous expliquera, il travaille toujours en famille. Certains l'appellent le Pétru du Languedoc. Moi, je vous dirai pourquoi demain. J'adore ce vin et Samuel viendra en parler. Donc, si vous avez même des questions autour du vin, autour de du Languedoc, n'hésitez pas. Ouais. Donc, Samuel sera.
Donc demain on parle de Pétrus. Hein.
Voilà, le Pétrus du Languedoc. C'est une fraction du prix, mais moi c'est un vin que j'aime passionnément.
Je me doute. Bon, c'est super.
Qui le boit au petit déjeuner, donc c'est tout dire.
Parfois oui.
Parfois, oui. Allez, en tout cas, merci beaucoup, François, pour être venu, comme vous le faites tous les jours, nous donner, nous ouvrir un petit peu, nous faire un peu saliver, nous donner envie de consommer et de manger, enfin d'associer évidemment mets et vins. Mille merci pour le faire d'une manière quotidienne et pour trouver toujours des produits,
Allez, on essaie de le coller.
Voilà, Bah oui, on essaye parce que, enfin, vous essayez, hein, parce que chaque fois vous essayez de faire des recettes de temps en temps plus complexes et autres, et de se dire, bah comme ça, je vais le planter. Eh ben non, réussir. Il est bon, hein. C'est un bon conseil.
Donc, évidemment, si vous voulez
obtenir les conseils de François, eh bien, vous pouvez le contacter directement, à la fois par Internet, par son compte Facebook, par son numéro de téléphone. Enfin bon, bref, il y a tous les moyens de l'embêter par email. Vous n'hésitez pas, il sera toujours content. C'est 7 jours sur 7, 24-24. Hein. C'est bien ça, François?
C'est exactement ça, et surtout 24-24.
Sa femme est sa femme est contente.
Appelez-le plutôt entre 2h et 4h du matin, c'est là où c'est le plus creux pour l'instant.
Ouais, mais c'est là où il réfléchit à... voilà.
J'ai quelques plages de livraison, exactement, Jean-Guillaume. Je vous livre ce soir à 3h, Jean-Guillaume.
Exactement.
Ah, je peux pas, j'ai une réunion à 3h, mais venez à 4h.
À la French Radio, c'est non-stop.
François, quel est le prénom de votre épouse?
Virginie.
Jean-Pierre.
Alors, Virginie, Jean-Guillaume, arrêtez un peu. Virginie, si tu nous entends, un peu à Michel Drucker.
c'est de notre faute, en fait.
Voilà, c'est de notre faute, c'est à cause de nous. Voilà, on lui donne encore plus de travail qu'il n'en a, mais je sais qu'il le fait toujours avec sourire et puis surtout beaucoup de compétences. Voilà, on vous remercie encore, Blood Wine, je le rappelle. Merci François, à demain.
Merci à vous, demain. Bonne journée.
Bon, eh ben, en tout cas, on était ravis. Une belle émission aujourd'hui. Hein. On n'a pas arrêté. On rappelle quand même que pendant près d'une heure, nous avions eu Madame l'ambassadrice, donc Florence Mangin, ambassadrice de France au Portugal. Je pense que là, les choses sont claires parce que j'ai encore des gens qui m'envoient des messages en me disant « Est-ce que vous pourriez poser telle question à Madame l'ambassadrice ?»
Non, on ne peut plus.
Là, c'est fini. Mais par contre, on a posé beaucoup de questions. Donc, évidemment, si vous voulez tout retrouver dès demain, à partir de 11h, ce sera publié sur le site internet de lafrenchradio.pt, mais vous le retrouverez aussi, bien entendu, sur Facebook, et puis voilà, vous pourrez donc le podcaster, l'écouter complètement. On essaiera bien entendu de résumer un petit peu les différents points qui ont été abordés. Ensuite, on avait le cyber-sitting, c'est ça,
absolument,
hein, le cyber-sitting. Ensuite, on a parlé miam miam, hein. Alors en fait, on a fait que du miam miam après, hein, si vous remarquez bien, hein. On est passé
entre Julien boulangerie,
voilà.
Wine et...
Voilà. Et ouais. Et puis voilà.
Ouais, c'est important quand même.
Ouais, ouais. Pour le mercredi, voilà. Donc c'est pas mal pour se préparer, en tout cas pour bien commencer. Je sais pas, la deuxième partie de la semaine.
Oh là.
Hein? Voilà.
Ah oui, c'est la deuxième partie, c'est vrai.
Deuxième partie, ne l'oublions pas. Bon, allez, je vous propose qu'on se quitte, Jean-Guillaume. On va passer une petite musique et puis ensuite on va rendre l'antenne d'une manière classique, comme on le fait à chaque fois.
Comme on le fait si bien, Thierry.
Ah ouais, comme on le fait si bien. Voilà. Allez, je vous propose, Christophe Maé, il est où le bonheur? Parce que là, avec vous, ça a été le bonheur pendant toute cette grande heure et demie, 2 heures même quasiment de direct. Voilà, donc il est où le bonheur? Eh bien, il est sur la French Radio. N'est-ce pas, Jean-Guillaume?
Évidemment.
Allez, Laurence, à demain.
À demain, oui.
À demain. Ciao, ciao.
Bonne journée à tous.
Allez,
à
bonne journée. Portez-vous bien.
Vous écoutez la French Radio.